Voilà, bonjour à tous. J'aimerais continuer ce thème démarré il y a quelques semaines maintenant. En face de mes adversaires, la vie n'est pas toujours simple. Ce mot est tiré du psaume 23. Hein. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Beaucoup d'adversaires sur tout notre trajet de vie. Traversé pas mal de combats, j'en traverserai sans doute encore. Et j'aimerais lire un texte avec vous maintenant dans Actes au chapitre 10, le verset 38. C'est dans le discours de Pierre à Corneille. Pierre a vécu une vraie révolution. C'est un juif, avec tout ce que cela comporte de commandements, de préceptes, d'observances. Et puis un jour, le Seigneur a décidé de le convertir à autre chose, de changer son regard. Et il a eu une vision trois fois. Il a vu cette nappe. Il a vu tous ces animaux impurs qui tombaient dedans. Puis Dieu lui disait, tue et mange. Mais Seigneur, chez nous, on ne fait pas ça. Une fois, deux fois, trois fois. Et puis, les serviteurs de Pierre sont arrivés, puis on dit, un centenier romain là-bas qui s'appelle Corneille, qui t'appelle, Dieu lui dit, vas-y, suis-les. Et il est arrivé chez Corneille, et puis il a fait tout ce discours. Il leur a réexpliqué qui était Jésus, avec tout ce... En même temps, peut-être un pied de recul en disant, mais qu'est-ce que je fais là? Comment est-ce que moi, Pierre, apôtre du Christ, celui à qui il a été dit sur cette pierre, je fonderai mon église, qu'est-ce que je fais là avec toute cette équipée de Romains et puis il aura témoigné du Christ. Et il y a cette phrase que je trouve, enfin cette parole de Dieu, ce verset que je trouve admirable. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et le verset 43, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » C'est un évangile résumé. Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Jésus a vécu à Nazareth, c'est là où il a ouvert son temps de ministère, donc ça a bien été un homme public. Jésus de Nazareth a réellement existé. Moi, j'aime beaucoup dire ce nom, ce n'est pas un titre de Jésus, mais Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est un homme que des gens ont rencontré, ont été en relation, en interaction avec lui, et il a réellement marché en Israël il y a 2000 ans, qui allait de lieu en lieu. Il dispensait l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pendant ses trois ans de ministère, Jésus s'est déplacé. Jean-Marc nous en a parlé dimanche dernier avec une carte. Tous ces kilomètres à pied que Jésus a fait, il en avait un paquet. Hein. Il n'avait pas les marques de chaussures d'aujourd'hui hein, pour le jogging. C'était de simples sandales. Il allait de lui en lui faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus vient pour faire du bien dans notre vie. Il veut me faire du bien, il veut vous faire du bien. Il veut faire du bien à toute l'humanité. Parfois, j'aime dire mon Dieu tout bon, mon Dieu qui me fait du bien, le Dieu qui me veut du bien jour après jour, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il m'a fallu quelques années pour me débarrasser de choses qui encombraient ma vie. Puis je voulais juste partager avec vous une expérience que j'ai faite. C'est plus qu'une expérience, c'est quelque chose, un moment de vie qui a dérapé. En 86, on était à Le Christ en communauté avec Jean-Marc, Rémy, avec un pasteur de région qui était sur Douarnenez. Et puis, le débat, c'était, c'est qui le chef? C'est la communauté ou c'est l'Église? Jean-Marc disait, moi, je préfère que ce soit plutôt l'Église. Et puis moi, il s'est passé, non, c'est plutôt la communauté. Et puis moi et Catherine, eh bien, il y a eu un clash. Hein. Et puis à un moment donné, il y a eu une séparation avec Jean-Marc. Moi, j'étais sûr d'être dans la vérité, dans quelque chose de juste. Deux, trois personnes, non des moindres, de mes amis, ont essayé de m'avertir, mais ça ne percutait pas. Et un soir, en rentrant, on habitait à Le Christ, on dit un château, c'est une maison de maître, hein, avec plusieurs étages, plein de pièces, plusieurs appartements. Et avec Catherine, on habitait tout en haut, un petit escalier colimaçon en bois. Et en montant l'escalier, spirituellement, mais physiquement, j'ai senti mes entrailles se retourner. Comme une femme dans le sixième, enfin, je ne sais pas à quel mois, le bébé se retourne, mais mes entrailles se sont retournées. Et puis Jean-Marc et Francine ont suivi leur chemin. Nous, on a suivi le nôtre. Et j'ai mis quelques années, 4 ans, pour un jour voir en esprit la manipulation dont je faisais l'objet avec ce pasteur de région. On devait décider ce soir-là de faire un prêt de 600 000 francs pour ouvrir une maison d'accueil pour personnes âgées. Catherine devait en prendre la direction. On avait travaillé pendant 3 ans sur ce projet, tout était prêt, les locaux étaient choisis, les plans avaient été faits, on avait les subventions de la région du département, il fallait emprunter 600 000 francs à la banque. Et j'ai vu l'esprit au travers de ce pasteur de région qui nous manipulait. Puis là, dans mon cœur, j'ai dit, j'avais quelques antériorités concernant ce type de combat, je me suis dit, ah, t'as qu'une chose à faire, quand tu rentres à la maison, tu envoies une lettre et puis tu coupes, tu te sépares de cet homme. 10 ans qu'on travaillait ensemble, c'est un homme qui avait un ministère de prophète, de pasteur. Il y a des choses que j'ai beaucoup apprises avec lui, puis en même temps, ce jour-là, je me suis dit, waouh, là, il faut une séparation parce que j'ai choisi un mauvais chemin. On est rentré de Douarnenez à Le Christ. Jusqu'à minuit avec Catherine, on a écrit une lettre. Je l'ai postée le lendemain matin. Je n'ai jamais cherché à revoir ce pasteur. Pendant près d'un an avec Catherine, on est allé à l'église réformée. On n'allait nulle part. Et puis un jour, pendant mon travail, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas aller voir Jean-Marc et tu vas lui dire, voilà, je me suis trompé et j'aimerais qu'on reprenne tout à zéro. Avec Catherine, en tous les cas, moi, c'était ma responsabilité de responsable à l'époque. J'ai dû écrire des dizaines de lettres à tous les gens, voilà, qui étaient dans cette première église à Lorient, desquels on s'est séparés. Et il m'a fallu guérir mon cœur. Ça a mis quelques années pour retrouver de l'assurance, pour me dire est-ce que j'ai encore la dignité, l'autorité, la capacité pour prêcher, pour profiter. utilisait pour être à la tête d'une église. Ça a été quelques années pour recoudre. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, de personne en personne, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. J'ai eu plusieurs séparations comme ça avec l'ennemi. Une fois en face à face, là on se dit non, il y a des choses là que je refuse et que apprendre à faire ses choix. Ça fait 31 ans maintenant que on retravaille à nouveau avec Jean-Marc et Francine, mais voilà, parfois il y a tu dresses une table en face de mes adversaires. Parfois on fait des mauvais choix. J'ai fait des mauvais choix. Donc après, avoir la capacité de conversion, de dire non, là je virage à droite toute, demi-tour, on change. Et puis avoir cette grâce, c'est par Dieu qui dit voilà, tu vas reprendre ton service là où tu l'as raté. Et puis, tu vas repartir, tu vas reconstruire. En face de mes adversaires, on avait partagé que Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous, Dieu est pour nous. On avait vu cette attitude qui peut nous aider à prendre du champ dans nos vies face à l'adversaire, faire ce choix, cette confession de Jésus Sauveur et Seigneur, et comme disait Jean-Marc, accepter de se réveiller et puis de dire voilà Seigneur, je suis concerné, je veux tout à nouveau te choisir, je veux tout à nouveau ouvrir la porte, se battre pour garder ce que l'on a reçu. L'ennemi a voulu m'enlever, j'assure, comme un demi-tour dans les entrailles. Et c'est seulement, pratiquement 10 ans après, au cours d'un séminaire prophétique, que j'ai senti les choses revenir à l'endroit. Pratiquement 8 à 10 ans après. Le Seigneur dit, ouais, c'est ok, là, t'es dans le bon sens. Se battre pour garder ce que l'on a reçu, résister aux pressions du monde, aux pressions de l'ennemi. Quand un train roule, il y a des changements de voie, il y en a plein qui sont automatiques. Ah, dans le temps, c'était manuel, maintenant c'est automatique, mais quand le train change, il y a encore une partie sur la première voie, et puis il y a l'automotrice qui tourne à gauche ou à droite, et puis après, le reste suit. Quand on fait un mauvais choix, on ne le voit pas toujours. Je me suis un peu entêté pendant 4 ans, et puis à un moment donné, je me disais, tu vas où, là ? Non, il faut changer l'aiguillage. Il faut faire un travail spirituel, un travail technique, il faut changer. Persévérer dans ce que l'on a reçu qui est juste, qui est vrai, qui est beau, qui est bien. S'équiper, revêtir de toutes les armures spirituelles. On avait vu dans Éphésiens, Paul dit, voilà, prenez le casque du salut, mettez la ceinture de la vérité à vos reins, la cuirasse de la vérité, l'épée de l'esprit, les chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà, c'est tout un... Ça pourrait être technique, c'est des compétences à acquérir, c'est aussi des positions à prendre. Sixième point, grandir, avoir cette compréhension tactique et stratégique. Comment l'ennemi essaye de nous faire dérailler. Et puis quand on a déraillé, bien là aussi se dire, mais la grâce de Dieu, et le Seigneur nous a avertis. Et puis il dit, mais non, là, remets-toi dans le bon sens, dans le bon rail, dans la bonne direction. Marcher dans la lumière. Waouh ! Dieu est lumière. Trois niveaux de combat. Combattre bien sûr l'ennemi, l'opposant. L'Écriture dit l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit. Un jour, il a, quand Jésus est mort sur la croix, il y a une partie de ses accusations pour nous qui sont nulles et non avenues. Un jour, l'ennemi s'est présenté près du Seigneur et lui dit « Ah, t'as vu Job là-bas ? » C'est un costaud, hein, mais si on le chatouille, qu'est-ce que ça va donner ? Puis Dieu lui a dit « Tu peux faire telle chose, mais à un moment donné, tu t'arrêtes. » Et puis Job a vécu, c'est traversé ce temps de difficulté. Sa vie a été secouée. Ses amis sont venus pour l'aider. Alors, on ne sait pas si c'est pour l'aider ou lui faire un croche-patte, ou bien, comme on dit, le pousser dans les orties. Et puis, c'est tout au bout de ces 30-31 chapitres de dialogue, tout d'un coup, Job dit, ouais, je me rends compte maintenant que je ne comprenais pas qui tu étais. Et que ta grâce, bah, c'est quelque chose de gratuit. Eh bien, je me repens et puis je me tourne de nouveau vers toi. Et Dieu lui rendit au centuple tout ce qu'il avait perdu. Dieu lui a redonné. Ça a mis du temps dans ma vie pour en retrouver une bonne dizaine d'années, retrouver le droit, la dignité, l'autorité. Notre Père ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Veillons, prions, soyons vigilants. Francine aime bien ce site, il y a un site chrétien, soyons vigilants. Jean-Marc en parle souvent hein, aujourd'hui. Le monde chrétien est divers, le monde évangélique est divers et aujourd'hui circule par Internet, mais pas que. Voilà, des églises prennent des chemins, des positions, des doctrines qui s'écartent de la sincérité, de la simplicité, de l'évangile. Juste, parfois on a de la peine à comprendre qui est l'ennemi, ce qu'est l'ennemi. J'aimerais juste lire deux textes à vous rendre attentif à ces textes. Voilà, si on ne travaille pas spécialement l'écriture, on les lit puis on peut passer à côté. Ésaïe, chapitre 14. Versets 12 à 17. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre ? Qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et qui ne relâchait point ses prisonniers. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est toutes les diatribes des prophètes sur le roi de Tyr, le roi de Sidon. C'est des rois qui personnalisent, et là ils personnalisent l'ennemi. Tu dis en ton cœur, je serai semblable au Très-Haut. Les hommes de pouvoir peuvent vite monter très haut. Aujourd'hui, on en a quelques exemplaires. pas besoin, comme on dit, de faire un dessin. Ça précède la chute. Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Sur la croix, Jésus a dévoilé les plans de l'ennemi. Et puis un jour, il va donner cet ordre à l'archange Michel, tu me l'attrapes et tu le jettes dans ce puits de ténèbres. Deux fois dans ma vie, j'étais en contact spirituellement, une fois avec la personne de l'ennemi direct et une autre fois avec les ténèbres du royaume de l'ennemi. Puis les deux fois, j'ai dit, je veux bien tout, mais ça, je veux pas. J'ai failli retomber dedans. Seigneur, sépare-moi de cet homme, de cette puissance qui aimerait bien être à droite. En même temps, c'est un mystère. On lit Ézéchiel 28, c'est les deux textes de l'Ancien Testament qui lèvent un petit peu le voile sur ce qu'est l'ennemi, qui est l'ennemi. Après, on ne comprend pas tout, hein, mais là aussi, être sur nos gardes et puis pouvoir dire non, Seigneur, sépare-moi de cette chose. Ézéchiel 28, 1 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé. Tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse, par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or, de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse, par ton commerce, tu as accru tes richesses. Par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse. Tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à ta perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Les tambourins, les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané ton sanctuaire. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais. Deux textes qui nous font entrer un petit peu dans ce mystère. Souvent on dit, hein, s'il y avait un Dieu, pourquoi la guerre, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi la souffrance? L'ennemi était, l'adversaire était comme l'archange Michel, plus élevé en gloire. Sainte Montagne de Dieu, pareil, avec des chants, il y avait plein de gens qui étaient à son service, et il y a ce mystère de l'iniquité. À un moment donné, c'est moi qui ai Dieu. Combien d'hommes aujourd'hui, d'hommes de pouvoir? Il y en a au moins 4-5. Hein. C'est moi qui décide, c'est moi qui règne sur des centaines de millions de personnes. Qu'est-ce qui précède la chute? À la croix, les pensées, l'offre de l'ennemi ont été dévoilées pour tous ceux qui croient en Jésus. Tous les dictateurs, un jour, sont tombés. Et je pense que ceux d'aujourd'hui ne feront pas exception. C'est des textes extraordinaires. Ils ne disent qu'un jour, la souffrance, la guerre, ne régnera pas toujours sur la terre. Et celui qui les cause, celui qui pousse tout le monde, qui veut élever tout le monde, en disant, waouh, avec moi, vous allez régner, vous allez voir. Il y aura des moments de stupeur dans le monde quand ceux qui sont en dignité, en autorité, en pouvoir, un jour tomberont. Après, on a fait cette séparation. Jésus dit, hein, je suis venu dans le monde, le prince de ce monde est déjà jugé. Sur la croix, Jésus a développé ses plans. Beaucoup de chrétiens sont impressionnés par l'ennemi. L'ennemi est puissant, Dieu est tout puissant. Alléluia. Et un jour, l'ennemi sera fauché et sera jeté à terre. Les temps qu'on vit aujourd'hui sont des temps compliqués. Beaucoup d'hommes et de femmes vont être poussés dans des modes de pensée. Je ne suis pas sûr que la démocratie, que le bien-vivre soit gagnant. Soyons attentifs aujourd'hui. Soyons éveillés, veillons. Soyons vigilants. Je ne sais pas comment les chrétiens, le christianisme, qu'ils soient catholiques, évangéliques, protestants, orthodoxes, va comprendre les choses de ce monde d'aujourd'hui. À nouveau, le plan de Dieu pour Israël est en bascule. Jusqu'en 1948, souvent j'ai été... On a eu l'année Luther, le 500e anniversaire, il n'y a pas longtemps. Sa position par rapport à Israël et au judaïsme était à contre-pied, il n'avait pas tout compris. Il y a plein de choses qu'il avait compris, mais celle-là, il avait du mal. Et puis tout d'un coup, en 48, il y a un petit coin de lumière qui est arrivé. Ben oui, les juifs, le judaïsme, il y a une nouveau dans son pays. Et puis en même temps, il y a un aveuglement, une cécité. Prions pour que cette lumière du Christ Jésus voilà, puisse se lever, puisse éclairer le monde, éclairer Israël, éclairer Jérusalem, éclairer tous ces hommes pieux, mais qui n'ont pas encore eu cette révélation du Christ Jésus. Prions pour que les églises aient la bonne compréhension de ce qui se passe aujourd'hui et qu'on ne parte pas dans des combats inutiles. L'ennemi va essayer, comme on dit, de tirer à U et à Dia, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'Église. Et je pense que beaucoup de choses spirituelles vont partir un petit peu dans tous les sens. On lit deux textes et puis voilà, je vous laisserai pour ce matin, puis on poursuivra ce thème prochainement. Ésaïe 42. Ésaïe 42, 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres et en lumière, les endroits tortueux en plaine. Voici ce que je ferai, je ne les abandonnerai pas. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Peut-être que l'Église d'aujourd'hui va marcher. On appelle à des temps nouveaux pour que Jésus revienne. Voilà, moi je soutiens la traduction de la Bible, que chaque être humain ait accès à la parole de Dieu. Il n'y a pas de plus grande chose aujourd'hui que d'avoir la parole de Dieu dans sa main, compréhensible. Jusqu'au 15e siècle, le message chrétien en Europe était délivré en latin. Seuls les gens qui avaient fait des études comprenaient quelque chose. L'écriture était en latin. Les gens n'avaient pas accès à l'écriture. En 1975 à 80, on faisait un marché, littérature chrétienne sur les marchés de l'Orient. Et de nombreuses personnes venaient et disaient « Ah, vous vendez des Bibles ?» Mais on n'a pas le droit de la lire. Seuls les prêtres ont le droit de la lire. 1974, j'ai acheté un bout de terrain au Vieux Passage, au Pont-le-Roi. La dame qui me l'a vendue, ma mère lui a donné une Bible. Elle l'a laissée tomber par terre. Elle a dit, ça brûle. 1974. L'écriture, ça brûle. Je n'ai pas le droit de la lire. Les choses ont évolué un peu, hein, avec Vatican II, avec l'écuménisme. Aujourd'hui, voilà, l'accès à l'écriture est de plus en plus partagé. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Même étant encore dans la foi, il y a un moment donné où j'ai failli. Et j'ai dû à nouveau séparer voilà, ce côté qui n'est pas lumineux de ma vie et puis dire non Seigneur, je veux être dans la vérité. La vérité est lumière, la lumière est vérité. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, les endroits tortueux en pleine. Retrouver le bon aiguillage, toujours dans la bonne direction, dans le bon sens, dans la bonne pratique, dans la bonne vérité. Voici ce que je ferai, je ne les abandonnerai pas. Même dans cette période où j'ai déraillé, la grâce de Dieu m'a accompagné. On a vécu plein de choses, on a eu 3 filles, j'ai eu de l'avancement, mais plein de domaines de ma vie ont continué de manière super. Mais il y a une partie de la foi qui était cassée. Et de retrouver le bon sentier, de retrouver le chemin, ça a été Ésaïe 9, et puis je terminerai là-dessus, et on poursuivra tout ce qui est cet inventaire de la lumière. Ésaïe 9, 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la nation, comme on pousse des cris d'allégresse en partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. J'ai marché dans les ténèbres. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai dû dire non. Séparation. Discernement, séparation. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, cette lumière du Christ Jésus. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Jésus de Nazareth allant de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire de l'ennemi. J'ai un petit livret qui n'est plus édité, hein, qui s'appelle « Les ruses de Satan ». Des petits livres qui nous apprennent à exercer le discernement. On peut se prendre les pieds dans le tapis. On peut se remettre debout et on peut marcher à nouveau dans la lumière. Marchons ensemble dans la lumière du Christ ressuscité, glorifié, qui est à la droite du Père. Il prie, il intercède pour chacun. Quand on se prend les pieds dans le tapis, quand on prend le mauvais aiguillage, voilà. Pour X raisons, voilà, le Seigneur est là pour... Ensemble, nous voulons rester dans le bon sens, dans la bonne direction. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Ensemble.